L'enseignement que je vous donnerai aujourd'hui concerne le livre de Job, au chapitre 42, verset 7. Il s'agit d'un discernement extrêmement important qu'il faut accepter pour notre propre vie et qui a fait l'enjeu de toutes les conversations entre Job et ses amis. En Job, chapitre 42, verset 7, l'Éternel, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et au verset 8, Dieu se répète, « Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc, nous voyons que Job a un statut différent aux yeux de Dieu par rapport aux trois hommes religieux, qui ont de grandes connaissances, évidemment, qui ne sont pas des apprentis dans la religion, mais pourtant, ils ne plaisent pas à Dieu. C'est un petit peu à l'image de Abel qui plaisait à Dieu et de Caïn qui ne plaisait pas. Regardons dans Job au chapitre 12, versets 2 et 3. Job 12, versets 2 et 3. On dira en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, je ne vous suis point inférieur, et qui ne sait les choses que vous dites? Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, répond le mépris. C'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, il y a sécurité pour ceux qui offensent Dieu, il y a sécurité pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Donc, on dirait que là, le texte de la parole de Job dénonce la présomption, l'esprit de présomption chez ces trois hommes. Au verset 13, chapitre 12, verset 13, « En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Donc seul Dieu a cette sagesse, cette puissance, ce conseil, cette intelligence. Donc les trois hommes qui vont faire des leçons de manière répétée à Job se trompent de chemin. Eliphaz de Théman a parlé longuement au chapitre 22, chapitre 15, chapitre 4 et 5. Bildad de Shuar a parlé longuement au chapitre 25, 18 et 8. Et Tsophar de Naama au chapitre 20 et au chapitre 11. Et tout se résume d'une manière assez succincte au chapitre 2, versets 11 à 13. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuar et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, ne le reconnurent pas, ils élevèrent la voix et pleurèrent, déchirèrent le manteau et jetèrent la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Donc, apparemment, ces gens ont un grand cœur, beaucoup de compassion, mais la source de leur comportement n'est pas claire. Pourquoi ? Parce que, au verset 12, chapitre 2, verset 12, ils ne le reconnurent pas. Il y a quelque chose, une connexion qui ne s'établit pas entre la situation spirituelle, morale, affective de Job et eux trois. Il n'y a pas une reconnaissance de la vraie situation. Et quelle est la vraie situation? Eh bien, c'est que tout simplement, ce n'est pas à cause d'un péché quelconque, d'une désobéissance, que Job connaît tous ces tourments, toutes ces difficultés énormes, d'avoir perdu sa famille, les troupeaux, la richesse, tout, peut-être même la santé, et d'être pris dans d'immenses tourments intérieurs. Non, la vraie cause, c'est que Dieu a permis que Satan attaque cet homme. Cet homme a de l'amour pour Dieu. Au chapitre 1, verset 22, « En tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Et nous voyons bien, au chapitre 1, verset 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc de grands malheurs arrivent à cause de ça. Au chapitre 2, les fils de Dieu donc vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc c'est les démons, hein. Parfois on les appelle les fils de Dieu, parce que c'est quand même des anges qui ont été créés par Dieu. Comme dans Genèse chapitre 6, ils portent parfois ce nom. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont des enfants de Dieu en heurte avec Dieu. Et au chapitre 2, verset 2, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Pau, pau, pau. Pau pour pau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Donc Satan est en train de dire que Job est un opportuniste, croit en Dieu par intérêt, simplement. Et il dit à Dieu, « Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te livre, seulement épargne sa vie. » Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter, et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, il meurt. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Donc, nous voyons bien que Job n'est pas sous l'objet d'un châtiment, d'une colère quelconque de Dieu. Il est simplement attaqué par Satan. Et Dieu permet que Satan, pour un certain temps, agisse sur la terre. Pensons à Jésus-Christ, qui a été sollicité par Satan dans le désert. Et puis Satan s'est éloigné, bien entendu, parce que Jésus obéissait pleinement au Saint-Esprit et à la vérité divine. Et puis ensuite, un jour, Satan a animé le cœur des hommes religieux pour attaquer Jésus, pour lui reprocher toutes sortes de positions, surtout celle d'être en infraction avec les lois de Moïse et les différentes lois judaïques de l'époque, 622 règles. Et Satan a poussé ces hommes à le haïr et à traiter Jésus de démon et à le faire crucifier. Nous voyons qu'il y a un parallèle assez puissant. Donc, les trois amis de Job ne connaissent pas la vraie situation spirituelle de Job. Ils ne connaissent pas l'enjeu. Et ils sont légalistes, ils sont simplement dans un cadre légaliste. Et ils pensent que si Job a des épreuves, c'est parce qu'il a péché. Pensez à Jésus quand il guérit l'aveugle-né, et que les hommes religieux arrivent auprès de l'aveugle-né qui est guéri, et qu'ils lui disent, « Mais tu es né dans les péchés de tes parents depuis que tu es né, ce n'est pas possible, celui qui t'a guéri ne vient pas de Dieu. » Vous voyez, à ce point-là, comme des hommes peuvent être aveuglés, simplement sans miséricorde, sans profondeur, tout en paraissant intelligent. Donc Job, lui de son côté, est un homme qui est jalousé, qui est attaqué, et qui n'hésitera pas à résister. Il va toujours résister. Et en cela, nous voyons bien que au chapitre 8 de Jean, verset 44 et verset 48, Jésus a résisté aussi. Jésus a toujours résisté. Et Job est la préfiguration du Fils de Dieu, à mon avis, en tout cas, pour ce que je pense. Voici ce que Jésus dit aux hommes religieux. Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui donc de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc plus loin, bien sûr, nous voyons que Jésus affirme sa préexistence éternelle par rapport à Moïse. Et au verset 56 à 58, hein, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. On voit que le conflit est poussé à l'extrême. Tandis qu'ici, chez Job, le conflit ne va pas à l'extrême. Il est simplement verbal, mais il me semble qu'il doit se répéter à des millions d'exemplaires à travers le monde. Il y a toujours des hommes pour asséner des règlements et du légalisme, de la culpabilité, et pour manquer de miséricorde et de profondeur concernant la véritable situation des autres. Regardons dans Job au chapitre 39. Job chapitre 39, versets 34 à 38. L'Éternel s'adressant à Job dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses. » Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Donc, nous voyons ici que une caractéristique essentielle de ce brave homme, c'est l'humilité. Nous l'avons déjà vu dans Job chapitre 2, verset 10. Et évidemment, cette humilité est extrêmement profonde. On la retrouvera, bien sûr, si nous faisons des parallèles avec Jésus, évidemment. Dans Marc chapitre 9, versets 22 à 24, nous voyons bien que le Seigneur Jésus témoigne de cet esprit d'humilité qui est bien sûr notre chemin également. Versets 22 à 24, Marc chapitre 9. Donc, depuis son enfance, répondit-il, donc c'est le papa qui explique que son fils se roule dans le feu, tombe par terre, écume, etc. Et souvent l'esprit l'a jeté, donc un démon l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, on voit vraiment que le modèle de la bonne attitude, c'est celle de ce papa. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est un petit peu un Job de l'époque de Jésus. C'est un pauvre de Dieu, c'est un homme, un anawim. Il a toutes les dispositions pour devenir enfant de Dieu, parce qu'il s'humilie. Et Job est aussi fidèle, c'est un homme fidèle. Voyons bien au chapitre 2 de Job, au verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Donc il est très fidèle, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, il reste constamment soumis à Dieu. Même la femme de Job lui fait ce reproche. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Nous voyons donc qu'il y a un conflit grave dans le couple à propos de Dieu. Que la vision n'est plus de foi n'est plus la même. Il s'agit un petit peu de Lot et de sa femme qui va être changée en statue de sel. C'est un petit peu la même situation. Job, si Job est humble et fidèle, il est aussi un homme souffrant. C'est pas un homme qui a tous les cadeaux et qui est, on dirait, gâté et aveuglé par les bénédictions. Job, chapitre 3, verset 1, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, et ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit vanille. Nous voyons donc que la souffrance est énorme. Au verset 24, tout chapitre d'ailleurs, mais au verset 24, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Au chapitre 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de ta main et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme on voit un homme? Vous voyez, Job, étonnamment, ressemble à Jésus sur la croix. Pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? Mais il est toujours en relation avec le Père, évidemment. Il n'abandonne pas la relation. C'est une relation de souffrance, évidemment. Où, quelque part, l'ennemi attaque tellement fort que le croyant perd pied. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un fil invisible qui tient ce croyant à Dieu. C'est l'élection. C'est ce que Dieu a décidé pour cet homme. Il l'aime. Qu'il soit parfait dans sa bouche ou dans ses prières, ou qu'il soit imparfait. Dieu l'a choisi, c'est l'élection qui est première. Dans ce chapitre 10, au verset 18 à 22, « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé, j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi, que je respire un peu, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. » Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. Il n'y a même pas l'idée de la résurrection ici dans ce texte. Et pourtant, plus tard, dans d'autres chapitres, Job va manifester une foi profonde dans la résurrection. Donc, il a vraiment perdu pied. C'est simplement Dieu qui le tient. C'est Dieu qui le tient. C'est Dieu qui a établi un fil avec Job. Ce qui compte dans tout ce livre, c'est l'élection divine de Dieu sur cet homme. Et cet homme n'est pas un homme religieux qui est rattaché à Dieu par la pratique de la loi, qui est rattaché à Dieu par la pratique de certains règlements, certaines obéissances, parfois même mesquines, pleines d'opportunisme. Voilà donc la situation de Job. Nous avons vu que les trois amis, eux, sont des légalistes et cherchent des puces sur le dos de Job et qu'ils se sont trompés. Ils ne peuvent pas comprendre que simplement Dieu aime cet homme et pourtant a permis des épreuves énormes. Comme Jésus, bien sûr, a connu des épreuves énormes, a connu la mort sur la croix, a connu des épreuves horrible, eh bien, pourtant, il a été relevé, il a été déclaré juste par excellence, il a été élevé jusqu'aux cieux. Il est dans la gloire du Père. Eh bien, donc, nous avons l'image ici de l'opposition de deux visions religieuses, celle de Caïn et celle de Abel, celle de du légalisme, des mérites, des œuvres méritoires, et de l'angoisse, de l'angoisse à propos du salut, de l'insécurité du salut, et de l'autre côté, l'élection et la grâce. Quant à Éliou, qui est un ami, on dirait qu'il échappe à la condamnation divine. Et il est clair que il faut lire la compassion, il y a beaucoup de compassion pour Job, au chapitre 34, versets 7 et 8. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies? Éliou se rend bien compte que Job vit dans une société perverse et qu'il supporte, il vit dans le monde, et il supporte cette espèce de désapprobation, de jugement, de condamnation qui n'est pas normale. Évidemment, si Éliou a compassion de Job, il faut bien savoir que Dieu a compassion aussi de Job et que Dieu va relever Job. Au chapitre 36, verset 5, Dieu est puissant mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne fait pas vivre le méchant, il fait droit au malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Voilà, il faut bien se rendre compte que Job, que Éliou a une vision un peu différente, assez différente, que Éliou prépare le chemin de la grâce pour Job. Job, au chapitre 37, versets 14 à 24. Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi les vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Nous voyons bien que les merveilles de Dieu, cette science parfaite, c'est comme dans le psaume 139. C'est là que David est relevé par le Saint-Esprit et qu'il a une considération positive de lui-même, parce que Dieu le voit de manière positive. Dieu l'a choisi, alors que David a commis de grands péchés, de grands égarements. Eh bien, David était un homme choisi, selon le cœur de Dieu. Eh bien, ici, on voit que Éliou s'adresse à Job en lui disant, mais Dieu a fait des merveilles pour toi. Regarde-les, retourne vers ces merveilles. Verset 15, 18, « Peux-tu, comme lui, étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux, lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable! Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre, ils ne portent les regards sur aucun sage. » Éliou a une forme de crainte à l'égard de Dieu qui ressemble un peu à celle des légalistes, mais d'une certaine manière, Dieu, dans le cœur d'Éliou, est tellement grand qu'il peut s'approcher de l'homme, qu'il peut venir vers Job et vers lui. Ça, c'est un schéma différent. C'est un schéma de grâce qui est possible. Et naturellement, Éliou ne va pas jusqu'au bout de sa pensée, chaque fois. Il prépare le terrain. Chapitre 32, verset 3. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'il ne trouvait rien à répondre, que néanmoins il condamnait Job. Donc ici, on voit bien que Éliou ne supporte pas qu'on condamne, qu'on manque de miséricorde vis-à-vis de Job. C'est un petit peu le samaritain qui s'approche de l'homme blessé, dont les religieux ne prennent aucune considération. Et qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer dans le cœur de l'homme? Eh bien, au verset 8, chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc ici, on a l'inauguration, on a l'affirmation que le travail de Dieu est capable de transformer la pensée et l'attitude intérieure de l'homme, et est capable de l'amener à Dieu. Mais c'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Donc, l'exercice oratoire des trois visiteurs a été légaliste, moralisant, sans véritable compassion. Il était meurtrissant, mortifère pour Job, sans véritable miséricorde, et injuste aux yeux de Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas à cause d'un péché que Job subissait tout cela, c'est simplement que Satan l'attaquait, avec la permission divine. En cela, nous devons bien comprendre que ces trois visiteurs se trompent de chemin dans leur compréhension spirituelle de la vie. La situation de Job a préfiguré celle de Pierre. Quand Pierre subit des attaques de Satan, que fait Jésus? Il l'avertit dans Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. C'est assez étonnant, mais ce sont des versets extrêmement importants qui vont permettre de comprendre tout ce qui va se passer pour Pierre lors de l'arrestation de Jésus, sa crucifixion, et surtout l'attitude de Jésus après, quand on voit dans Jean chapitre 21, quand Jésus va retrouver Pierre. Donc Luc 22, verset 31. Le Seigneur Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Vous, ce n'est pas simplement Pierre, c'est tous les apôtres, hein, futurs apôtres. « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc, Jésus n'a pas prié pour que Satan n'attaque pas. Jésus ne va pas empêcher Satan d'attaquer Pierre, ni les apôtres. Là, ce serait vraiment un faux message, un message horrible que de laisser croire que Dieu, parfois, nous évite des attaques. Nous avons des attaques, et ce ne sont pas des petites attaques. Tous les apôtres de Jésus ont subi le martyre. Il n'est pas étonnant, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qu'ils se trompent de chemin en pensant que s'engager pour Jésus n'est suivi d'aucun détriment, d'aucune persécution, d'aucune difficulté. Donc, l'évangile de l'opulence, de la prospérité, etc., sont des messages falsifiés, des messages trompeurs, qui amènent l'homme à se perdre et à s'éloigner de la vraie vision de la vie chrétienne. Donc, Pierre a été attaqué, les apôtres ont été attaqués, et l'histoire de la femme qui est attaquée aussi dans Luc chapitre 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. Donc, nous voyons bien, n'est-ce pas, que cette femme, remplie d'infirmité, qui était possédée d'un esprit depuis 18 ans, Luc chapitre 13, verset 10, elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser, cette femme était attaquée par Satan. Et Dieu a permis qu'elle soit attaquée pendant 18 ans. Nous sommes peut-être dans une époque moderne où nous ne pouvons rien comprendre à cela, parce que nous raisonnons tout. Mais c'est ainsi que l'Évangile présente cette femme. Et quand Jésus dit que le jour du sabbat, il veut la guérir, c'est parce que on ne veut pas regarder cette femme par la lunette de la loi, par la lunette du sabbat ou de toutes les autres lois. C'est simplement de l'autorité de Dieu d'arrêter Satan. Simplement de la miséricorde divine de délivrer cette femme et d'arrêter l'œuvre mauvaise de Satan. Ainsi, la situation de Job, nous voyons qu'elle a été aussi celle des apôtres, celle de cette femme, et bien sûr, surtout de Jésus. Et Jésus, qui est le juste, a subi l'infamie, l'abomination de la croix, alors qu'il ne méritait en rien cela. Donc la foi de Job va être relevée. C'est une foi qui est basée sur un appel de Dieu, ferme et solide. Et les attaques de Satan sont en proportion de l'appel. L'appel est toujours plus puissant que l'épreuve. L'appel est toujours le plus puissant. Et donc la foi de Job nous donne la leçon. Regardons dans Luc au chapitre 20. Au chapitre 20, versets 36 et 37. Ils ne pourront plus mourir, donc les hommes et les femmes, à la résurrection, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont morts. Donc nous voyons bien que l'autorité finale de Dieu, c'est la vie, c'est la résurrection. Et bien sûr, la mort étant le résultat du péché, était aussi un piège tendu à l'homme et à la femme par Satan. Donc Dieu affirme que tout homme qui est devenu son enfant à cause du sang de Jésus versé à la croix et qui a été choisi pour reconnaître ses péchés et accepter Jésus comme son sauveur est devenu celui-là, est devenu celle-là, est devenu fils, fille de Dieu, fils, fille de la résurrection. Eh bien, Job a bien sûr un regard tourné vers la résurrection à un moment donné dans sa vie. Dans Job au chapitre 33, Job chapitre 33, versets 14 à 30. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, évidemment, c'est que Dieu a parlé de ces manières-là à Job. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Donc au sens général, les os représentent dans la littérature hébraïque autant le corps que l'âme. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Il laisse voir sa face avec joie, lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Donc nous voyons bien vraiment que c'est tout un plaidoyer pour la résurrection et pour une véritable vie heureuse avec Dieu. Lisons Job au chapitre 19, versets 23-27. Job 19, versets 23-27. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est donc la foi, bien sûr. Donc, vous voyez, chers amis, que Job a progressé. Dans son appel, Dieu a travaillé le cœur de Job et l'a amené à reconnaître les bienfaits de la foi. Les bienfaits, les bénédictions sont, bien sûr, que l'élection est fidèle et continue, elle est ferme, et que la vie est donnée une fois pour toutes et ne sera pas reprise. L'épreuve est possible, mais la vie n'est pas reprise. La vie est même destinée à la gloire. Et donc, en cela, on se rappelle bien ce que Paul a dit en Romains chapitre 8. C'est évidemment un texte de base pour comprendre le schéma du salut. Romains chapitre 8, versets 28 et suivants. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, donc Job et d'autres, de ceux qui sont appelés selon son dessein, donc l'élection, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, donc ils ont la même trajectoire que Jésus, tout compte fait, et bien sûr, ça se termine par la même gloire, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, donc déclarés justes, ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi glorifiés. Au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Donc on pourrait dire, qui a séparé Job de Dieu? Rien, aucune tribulation, aucune angoisse, rien. C'est ça que Eliou a reconnu en Job. C'est pour ça que Eliou n'est pas condamné de la même façon. Même si Eliou n'a pas toutes les paroles tout à fait claires et justes qu'il faut, il reconnaît que Job a une trajectoire bien spécifique voulue par Dieu, qui a été choisie par Dieu. Et donc, au verset 37, Romains 8, 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, donc on voit bien ici que Satan et tous ses sbires n'ont rien à dire, ni les choses présentes, ni les choses à venir, donc toutes les tribulations, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc le chemin que a vécu Job préfigure bien sûr l'Évangile. Et il est clair que dans Job, au chapitre 33, chapitre 19, on voit bien qu'il y a un intercesseur, il y a une rançon, il y a donc un salut. Donc, quelle est la clé de tout ce texte? Pourquoi Dieu a-t-il dit en Job 42, verset 7 et verset 8, que Job a parlé avec droiture? Mais parce que Job savait qu'il était choisi, il est sous l'élection, et son obéissance n'est pas ce qui lui fait mériter la fidélité de Dieu. Non, l'élection engendre la fidélité de Dieu, s'exprime par la fidélité et la miséricorde de Dieu à l'égard de Job. Et l'obéissance n'est qu'un fait, tout à fait venu du cœur, un fait normal pour un homme, même s'il souffre. L'obéissance est le chemin de l'homme choisi par Dieu, de l'homme qui sait que Dieu l'a choisi, l'a sauvé. La bénédiction ne s'origine donc pas dans les mérites ou dans les œuvres méritoires, telles que l'affirment les trois amis, Éliphaz de Théman, Bildad de Choir, Sophar de Naaman. Deuxième point, pour comprendre Job, c'est que la révélation, l'inspiration est donnée dans le cœur de l'homme par Dieu. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui donne la révélation, qui donne la véritable inspiration. C'est une pure grâce. Dans Job, au chapitre 42, verset 5. Job, chapitre 42, verset 5. Verset 4, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me repens sur la poussière, sur la cendre. Donc, il y a véritablement une instruction donnée par Dieu, et il y a une véritable révélation de Dieu, faite de Dieu qui se révèle lui-même à Job. L'homme ne peut pas accéder à la connaissance de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons aujourd'hui tellement de courants de pensée qui nous font laisser croire que nous pouvons atteindre par la pensée positive, par les énergies de l'univers, par les richesses de l'intelligence, accéder à la divinité. C'est pur mensonge venu de Satan. Le troisième point qu'il faut dire, c'est que la justification est toujours un fait de la grâce de Dieu, le pardon des péchés. Et le point, évidemment, le quatrième point, c'est que la foi est le chemin de celui qui est appelé par Dieu, le chemin de celui qui est pardonné par Dieu, le chemin de celui qui a appris à connaître par pure grâce la miséricorde de Dieu, le salut de Dieu. C'est Dieu qui instruit lui-même l'homme. Et cela, vous pouvez le lire dans tous les chapitres 38 à 41 de Job. C'est Dieu lui-même qui instruit l'homme. Et la foi est instruite par Dieu lui-même. Elle n'est pas le fruit de l'intelligence humaine. Voilà pour les commentaires concernant Job, chapitre 42, verset 7. Apprenons à avoir un discernement sur la vraie foi et sur les mauvaises fois, sur les bons messages et les vrais messages et les faux messages. Le discernement peut nous être donné, mais par Dieu, dans sa grâce, pour ne pas nous tromper sur notre chemin. Tout comme Job, tout comme les apôtres, suivant Jésus, il a reçu tout son Père. Et il nous a montré que c'est de son Père que nous recevons tout pour pouvoir suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse.